Eh bien oui, une nouvelle semaine de Par ici les sorties qu'on va commencer comme tous les jours de la semaine, sauf le mercredi évidemment, par donc cette rétrospective intégrale de Miles Davis. Et puis après on poursuivra par une réédition fort intéressante qui a pour titre Bud Chunk and the Trombones. Alors évidemment, on avait quitté Miles en 1946, alors qu'il était avec Charlie Parker, donc à Los Angeles. Et bien, il va mijoter quelque temps dans les différents clubs de Los Angeles, aborder un peu la rue aussi, avec les quelques déboires qu'on peut y rencontrer. Il commence à s'adonner un peu à la boisson, Miles, un peu comme tous les copains, pour faire comme tous les autres. Et puis après, petit à petit, tout reprend son cours. Et donc, comme je l'avais indiqué, il va s'installer finalement à Los Angeles d'une manière vraiment convenue, un peu comme tous les musiciens. Et Charlie Parker, se rendant compte qu'il est définitivement dans le circuit, va pouvoir songer uniquement à l'enregistrement qu'il a prévu de faire avec Ross Russell de la firme Dial. Ross Russell, donc de chez Dial, avait contacté Charlie Parker pour un enregistrement, et ce sera peut-être là les plus beaux enregistrements de Charlie Parker. Il va convoquer donc des musiciens venus de New York, notamment Lucky Thompson. Et bien tous ces musiciens vont aussi s'installer à Los Angeles. Un soir, ils vont donc intégrer le groupe de Charlie Parker, et ça se passera bien sûr au Finals Club où joue Parker. Et puis après, on va donc attaquer carrément la séance d'enregistrement. Ça se passe pas le mieux du monde, parce qu'en effet, quelques jours auparavant, Charlie Parker s'est rendu dans les bureaux de Bob Russell au Tempo Music Shop sur Hollywood Boulevard, et il suggère que l'enregistrement se fasse quand même avec Miles Davis. Alors le premier enregistrement est prévu cette fois pour le 28 mars à 1h du matin, après donc on va dire les 7 au Finals Club. Et bien ce soir-là, les musiciens arrivent un peu et même pas mal éméchés, avec au moins une grosse gueule de bois, selon qu'on puisse dire. Et de ce fait, ils vont mettre pratiquement une heure à une heure et demie à s'installer, à déballer leur instrument, à se chauffer. Et Bob Russell dira qu'il commence à en avoir un peu ras-le-bol d'attendre. Malgré tout, il ne peut pas faire autrement, parce qu'il a loué le studio, et vous le savez peut-être, à cette époque-là, les sessions étaient prévues pour les enregistrements à peu près de 2 heures. Ce soir-là, ça va durer 8 heures carrément. La séance va se terminer à 9 heures du matin, après bien des débats entre les musiciens et Ross Russell. Alors pour cet enregistrement, les musiciens pressentis sont donc, outre Miles et Charlie Parker bien sûr, Lucky Thompson au ténor, Dodo Marmarosa au piano, Victor McMillan à la basse et Roy Porter à la batterie, et puis Dodo Marmarosa au piano. C'est vrai que cette séance demeurera une séance de légende, parce qu'elle va positionner le bop vraiment dans son entité totale, et un succès phénoménal qui dépassera la limite de Los Angeles. On va commencer avec la séance avec Moose the Mouche, que Parker voulait d'abord intituler Emery Bird, pour être bien sûr d'empocher les royalties du premier morceau. Ce sera pris sur un tempo médium, qui convient parfaitement d'ailleurs à Miles. Il y aura malgré tout 3 prises, on va n'en écouter qu'une seule évidemment. À noter quand même la grande différence entre l'assurance de Lucky Thompson avec un son vigoureux et le jeu encore un peu timide de Miles Davis. We'll be right back. Moose the Moosh par donc Charlie Parker, enregistré donc le 28 mars 1946 avec notamment bien sûr Miles Davis. Ornithologique, elle est devenue un des thèmes favoris de Charlie Parker et vraiment un des thèmes les plus joués dans le domaine du bop. Sera également enregistré cette fois-ci, mais pour la première fois en dehors des retransmissions radio qui avaient eu lieu précédemment. Et ce sera toujours pris malgré tout sur un tempo relativement médium, alors que bien plus tard ça va s'accélérer parce que Parker trouvera que ce morceau mérite mieux que ce tempo médium qui avait eu lieu pour cette séance de premier enregistrement, disons. Oui, c'est une chute un peu brutale, mais vous le savez, à l'époque, les enregistrements devaient durer aux environs de 3 minutes, et par conséquent, même si les musiciens étaient chauds pour de solos beaucoup plus longs, eh bien, on devait donc faire avec. C'est la raison pour laquelle, dans bien des cas, ces thèmes sont vraiment écourtés et se terminent d'une manière assez brutale. Sur Yardbird Suite, Parker avait vraisemblablement signé les arrangements, c'est tout au moins ce que l'on croit savoir. Eh bien, il ne va laisser à Miles que 6 minutes pour s'exprimer, alors que lui va s'en octroyer 16, Charlie Parker. Il va donc en accorder 8 à Lucky Thompson, et puis il va considérer que c'est quand même lui le maître des lieux. Il reprendra donc 8 mesures pour redonner la parole pour terminer donc à Lucky Thompson sur ce Yardbird Suite. Thank you. sur la compo de Dizzy Gillespie, immortel maintenant, Night in Tunisia, les trois cuivres, après une courte intro donc au piano par Dodo Barbarossa, vont jouer à l'unisson, pendant que Miles lui va tout simplement reprendre le thème au début, à la fin du morceau, et on pourra enfin vraiment apprécier le jeu de guitare de Harry Garrison. Night in Tunisia par Charlie Parker, donc en mars 1946. Pour vous signifier à quel point cet enregistrement fut historique et reconnu par tous, tant par les musiciens que par les amateurs de jazz, également par les critiques, et bien uniquement grâce à cet enregistrement-là, Miles sera couronné par la revue Downbeat, donc référence à l'époque, comme trompettiste de l'année, tandis que Lucky Thompson remportera lui la prime dans la catégorie sax ténor, et Dodo Barbarossa dans la catégorie pianiste. Vous voyez, trois musiciens, bien sûr plus Charlie Parker, quatre, primés pour un seul enregistrement, c'est tout de même assez rare dans l'histoire du jazz, et bien, c'était cela qu'avaient réussi à faire Charlie Parker et Bob Russell, qui ne se doutaient pas qu'ils venaient de signer là, avec cette premier d'une série des albums Dial, quelque chose de fantastique. Alors, on va faire une petite entourloupe un peu à l'intégrale de Miles, parce que sur cette galette, il est un enregistrement sur lequel Miles ne joue pas d'ailleurs, mais j'ai tenu à vous la faire écouter parce qu'elle est considérée comme peut-être un des plus beaux solos de Charlie Parker, même si elle ne dure que très peu de temps, à tel point que bien sûr vous reconnaîtrez Night in Tunisia, mais le titre exact c'est A Famous Alto Break. Thank you. Effectivement, c'était très court, mais ça valait la peine de faire ce petit détour parce que, bien sûr, c'est Maître Charlie Parker dans un solo que je crois, dans les écoles de jazz, on apprécie et on essaie de faire jouer à tous les musiciens. Certains y parviennent, mais beaucoup n'y parviennent pas, même avec les techniques actuelles et le progrès dans le domaine des instruments de musique. On va arrêter là un peu ces commentaires désagréables pour les jeunes musiciens. En Californie, donc, Miles est définitivement adopté à la fois par les jeunes musiciens et ceux un peu plus âgés. Il faut dire qu'à un an, il a considérablement progressé et il a totalement absorbé les leçons de la rue, des clubs, également de ses compagnons de jeu, aussi bien dans les clubs que dans des parties, on va dire, ou des pique-niques. Par conséquent, il est devenu un musicien vraiment auquel on prête énormément d'attention. Et quelques années plus tard, eh bien, Benny Bailey, grand trompettiste lui aussi, déclara « J'ai beaucoup appris avec Miles, il m'a expliqué tout le bebop, notamment les accords de septième diminué ou les accords de fa dièse, ce qui permettait de progresser énormément, à tel point que quelques années plus tard, eh bien, Benny Bailey rejoindra la section trompette dans l'orchestre de Dizzy. Et tout ceci donc grâce aux informations et communications qu'avait fait Miles autour donc, de ces thèmes bebop. Au mois d'avril, donc un mois après, Miles apparaît à un concert avec Parker au Carver Club sur le campus de l'Université de Los Angeles. C'est aussi à cette époque d'ailleurs qu'il va rencontrer Benny Carter. Il a été recommandé à Benny par Ira Pettiford, le trompettiste, avec lequel il sera engagé au club The Street of Paris. Alors bien entendu, ce club, comme beaucoup d'autres de Los Angeles, aura droit à des retransmissions en radio, et notamment celle-ci, où on va pouvoir enregistrer donc Miles Davis, mais on n'est même pas sûr que ce soit lui qui joue, parce que pour ne rien vous cacher, vous le savez peut-être, Benny Carter, s'il était et s'il a été dans l'histoire du jazz, un grand saxophoniste, était aussi un grand trompettiste. Donc, pour ma part, je crois plutôt que c'est Benny Carter qui joue dans ce morceau-là. Le titre, c'est « Who is sorry now ?» Alors, je ne sais pas si Miles a été désolé de se trouver là. Ce que je sais, par contre, c'est que plus jamais, il n'enregistrera ce morceau, d'ailleurs. Thank you. Who is Sorry Now par l'orchestre de Benny Carter, dont on ne sait si Miles faisait partie ou non. D'après les historiens et les discographes, notamment patentés autour de Miles Davis, on dit que oui, mais bon, on n'en a pas la preuve effective. C'est aussi à cette époque-là que sont enregistrés les fameux V-disques, vous savez. Les V-disques, c'était ces enregistrements faits avec un V comme Victory, qui étaient faits pour les soldats américains qui étaient donc loin de la mère patrie. Et bien des orchestres de danse y participaient, des orchestres de toute nature d'ailleurs, également des chanteurs venus de différents horizons. Et par conséquent, Benny Carter sera recruté également pour cette séance-là en avril 1946. Et toujours le même problème, on ne sait toujours pas si Miles était dans l'orchestre. Toujours est-il que ce jour-là, on va donc enregistrer ce « I Can't Get Started ». I Can't Get Started, donc par Benny Carter. Et c'est vrai qu'on imagine aisément donc ces disques parvenus dans les unités américaines avec une soirée, on va dire, des officiers, capitaines et autres, et avec Madame qui arrive tout pomponnée, comme on peut le voir parfois dans les films de guerre des années 50. Par conséquent, bien sûr, c'était fait pour la danse et c'était pas du tout fait pour le jazz, comme on dit. Malgré tout, on sentait de la part des musiciens vraiment cette pointe jazzistique. On va retrouver cette pointe-là plutôt dans ce thème-là. Le dernier thème de cette séance, il s'appellera Jump Band, mais il sera souvent sous-titré pour indiquer un peu ce qui se passait dans ces séances d'enregistrement. Melodrama in a V-Disc Record Room. Thank you. Mélodrama, donc enregistré sur un V-disque, et on termine là pour ce soir avec Miles Davis. On le retrouvera demain pour d'autres aventures jazzistiques, toujours avec Benny Carter. Et là encore, enregistrement radio dont on ne sait trop s'il participe ou non. Et puis quand même un enregistrement avec Mr. Mingus, le premier qu'il fit avec lui. Parce qu'à l'époque, eh bien, Mingus s'appelait bien sûr Charles Mingus, mais on l'avait déjà surnommé Baron Mingus. Il y avait donc Duke Ellington, le Duke, Count Basie, et Baron Mingus, Charles Mingus. Mais tout ça, c'est pour donc demain, pour une nouvelle péripétie avec Miles Davis. Je pense qu'on terminera peut-être là l'année 46, mais non, parce que je crois qu'il y a encore une séance avec des chanteurs comme Earl Coleman et Anne Hathaway. Enfin, on verra tout ça demain pour l'instant. Pour ce soir, c'est terminé avec Miles. On va donc maintenant passer à la réédition du jour, et c'est un album paru chez Fresh Sound qui a pour titre Bud Chunk and the Trombones. Alors, pourquoi je choisis cet album-là ? Bien parce qu'il est très intéressant à plusieurs titres. Tout d'abord parce qu'il permet de rendre hommage à Bud Chunk qui est décédé en 2009. Il était né le 26 mai 1926 et il va décéder le 2 avril 2009 à Tucson de suite de très graves maladies. En effet, il a failli mourir plusieurs fois, Bud Chunk, et en 2008, il va subir tout à la fois une attaque cardiaque. On va également procéder à une chirurgie donc du crâne, plus, malheureusement, on découvrira des traces de sang dans les poumons. Comme quoi, eh bien, il va devoir, à partir de ce moment-là, se déplacer avec de l'oxygène, avec un système portable également et une kyrielle de pilules, mais ça ne l'empêchera pas de continuer à jouer et à écrire. C'est ce que va déclarer son épouse, et je crois qu'il faut saluer ce grand monsieur du jazz, raison pour laquelle il m'a paru important de lui rendre cet hommage-là. En effet, donc, Bud Chunk avait démarré avec l'orchestre de Charlie Barnett. Il va rejoindre ensuite Stan Kenton avec toute la pléiade des futurs jazzmen de la West Coast. Et puis lui, eh bien, il sera toujours un peu marginal, on va dire qu'il sera donc dans cette West Coast, mais avec ce sens aigu du swing qui fait que, eh bien, tout en étant apparenté à la West Coast et ce style très cool, eh bien, il gardera une place un peu à part à la fois parmi les musiciens, parmi les amateurs de jazz, surtout parmi les grands critiques qui considéreront qu'il a vraiment apporté une manière différente d'aborder le jazz. Tel exemple, notamment ce premier album où il va le faire dans des conditions et un contexte assez particulier, eh bien parce qu'il va le faire avec un groupe assez surprenant. Il va le faire avec des trombones. Il y aura donc là Bob Enevoldsen, Maynard Ferguson, Stu Williamson. En effet, il a souhaité prendre ces deux musiciens, notamment Maynard Ferguson et Stu Williamson, parce qu'on a longtemps oublié qu'ils avaient été trombonistes avant d'être trompettistes, et surtout que là, ils vont jouer au trombone à piston et non pas à valve. Il y aura donc également Claude Williamson au piano, Joe Mondragon à la basse et Shelly Mayne à la batterie. On est au mois de juin 1954 avec cette composition de Bob Cooper, Wailing Vessel. We'll be right back. c'était Bud Shank and the Trombone avec une pareille phalange de trombonistes émérites, bien que trompettistes également, qui pouvaient passer sans aucun problème du trombone à piston au trombone à valve. Il va donc demander à Bob Cooper, qu'il avait rencontré dans l'orchestre de Kenton quelques années auparavant, de signer un arrangement pour ces trois trombonistes. Et ça va donner le titre suivant, Valve in Head, qui veut tout dire. Donc, bien évidemment, c'est au trombone à valve avec... Donc je vous rappelle les noms des trois trombonistes, Bob Enevoldsen, Maynard Ferguson et Stu Williamson, toujours donc en 1954 avec Mr. Bud Shank. Et oui, et dire que l'on a pendant bien longtemps pensé et osé dire que les musiciens de la West Coast ne savaient pas swinguer, qu'ils étaient tout juste bons, ces pauvres blancs-becs, comme on les appelait, à faire de la musique de studio, de la musique pour illustrer les films de Walt Disney ou qu'on sort, eh bien, je crois qu'à partir d'enregistrements comme cela, il faut quand même revoir un peu son jugement. En effet, Bud Shank sera jamais dans cette catégorie-là. Il y aura d'autres musiciens, bien sûr, qui rejoindront, notamment des messieurs comme Art Pepper, et bien d'autres, Hampton Oaks et j'en passe, et Teddy Edwards, et des meilleurs, et des plus grands. On va donc malgré tout retrouver un peu cette ambiance West Coast avec un troisième titre, à partir d'une chanson qu'avait composée Glenna Horn et qu'elle avait enregistrée en 1946. Ceci a donc pour titre « Little Girl Blue ». Thank you. Butchunk, Little Girl Blue. Et puis, eh bien, quelques mois plus tard, une année pratiquement plus tard, Butchunk va retrouver une autre séance d'enregistrement pour le label Pacific, avec cette fois-ci un autre groupe tout à fait différent. Claude Williamson sera malgré tout resté au piano. Buddy Clark l'aura rejoint à la basse et Larry Bunker sera à la batterie. Et puis un grand tromboniste, peut-être parmi les plus grands, tout au moins comme instrumentiste, mais aussi comme arrangeur, ce sera Bob Brookmeyer qui sera là. On va le retrouver dans une de ses compositions, fait pratiquement pour cet album-là, ça s'appelle Rustic Hop, et pour des raisons que j'ignore, il avait souhaité y adjoindre un quatuor à cordes qui a bien du mal à s'immiscer un peu entre vraiment tout le talent de ces deux grands musiciens que sont Butchunk et Bob Brookmeyer. Ça se passe donc en janvier 1955, le 14 janvier, avec donc ce thème Rustic Hop. Thank you. Donc Bud Chunk et Bob Brookmeyer, c'est extrait d'un CD qui est une composition de deux LP. C'est paru chez Fresh Sound sous le titre Bud Chunk and Trombone Cool Fool. Donc en général, je trouve que ces rééditions Fresh Sound sont bien faites parce que Jordi Pujol, le producteur à qui il faut rendre hommage, ne plaint pas le temps pour trouver tous les renseignements souhaités. Et bien pour une fois, il n'a pas eu le temps, d'indiquer le nom des participants donc à ce quartet de violon et violoncelle. Il m'a paru donc important de vous donner le nom de ces musiciens malgré tout. Je suis donc allé voir sur le LP que je possédais, qui a pour titre tout simplement Bud Chunk and Bob Brookmeyer, dont les musiciens sont Sam Kaplan et Marshall Sossom et Benji au violon et Rick Kramer au violoncelle. Comme ça, vous avez tous les renseignements jusqu'au complet. Vous savez tout. Et on va pouvoir donc se quitter avec notamment une partie, se quitter, c'est façon de parler, effectivement, parce qu'il y a encore des choses à voir. Hein. On va donc retrouver un arrangement de Brookmeyer sur With the Wind and the Rain in Your Hair. J'hésitais parce que sur l'album, vous voyez encore là aussi quelques précisions, il était indiqué With Wind and Rain in Your Hair, alors que le titre exact est bien With the Wind and the Rain in Your Hair. Bien voilà, c'est la fin de Par ici les sorties. Et évidemment, comme d'habitude, on chante un peu les morceaux, mais c'est la règle du jeu. Les émissions ont lieu à des heures bien ponctuelles. Par conséquent, moi, je vous retrouverai demain pour un nouveau Par ici les sorties à 17h. Je vous rappelle, avec demain, une kyrielle de nouveautés et des choses fort intéressantes. Et bien sûr, poursuite donc de l'intégrale de Miles Davis. Pour l'heure, vous allez retrouver tout de suite après l'émission. Eh bien, retour sur les rendez-vous de la semaine avec notamment Simon Morin et Vincent Pourageau. Et puis après, une interview téléphonique avec Gérard Kurdian du groupe This is the Hello Monster, qui sera donc en concert demain soir au JAM. Donc passez donc une très bonne soirée. Quant à moi, je vous dis donc jasez-vous bien, portez-vous bien, à demain soir donc pour une nouvelle émission de Par ici les sorties. Et je tiens à remercier encore une fois Bruno pour sa prestation aux manettes. Bonsoir et à demain.